Décryptage, Marie Cazadebé.
Ebola, c'est l'ennemi public numéro 1 en République démocratique du Congo. Les mots du patron de l'Organisation mondiale de la santé hier lors de l'ouverture de l'assemblée de l'agence onusienne. La maladie qui s'est déclarée au mois d'août dernier près de Beni dans le Nord Kivu a fait près de 1200 morts. Et malgré la riposte sanitaire, le nombre de cas a connu une flambée ces dernières semaines. Il faut dire qu'à l'insécurité de la région s'ajoute la méfiance de la population. Le docteur Yao coordonne la réponse Ebola pour l'OMS.
Nous recevons pratiquement tous les jours des tracts de menaces contre les équipes Ebola. Donc on soupçonne qu'il y a des gens peut-être derrière qui organisent ces groupes armés pour en quelque sorte s'attaquer à la réponse Ebola.
Alors comment lutter efficacement contre cette épidémie dans un tel contexte? D'où vient la méfiance des communautés? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Augustin Augier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes directeur général de l'ONG ALIMA, l'Alliance pour l'Action Médicale Internationale. 200 de vos agents de santé sont actuellement sur le terrain, en RDC, avec des centres de traitement à Beni et Katwa. Et nous sommes au téléphone avec Elie Kouira-Vouza. Bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Vous êtes le vice-président de la société civile de Boutembo. Vous êtes aussi chercheur et consultant paix et sécurité. Alors un point d'abord sur l'étendue de l'épidémie, Augustin Augier. 9 mois après sa déclaration, les premiers cas, je disais, ont été signalés près de Beni, dans le Nord Kivu. Comment le virus est-il géographiquement propagé?
Il s'est propagé de façon continue quasiment depuis le mois d'août. Il y a eu une diminution en janvier, février, et puis à nouveau une hausse depuis le mois de mars. Là, depuis 7 semaines maintenant, on est à plus de 100 cas confirmés d'Ebola par semaine. Plus de 80 aires de santé ont notifié des cas confirmés d'Ebola dans les 3 dernières semaines. Donc on est à une situation particulièrement préoccupante, parce que c'est une maladie, tout le monde le sait, qui tue, et qui tue très rapidement, malheureusement, les personnes qui sont touchées.
On parlait de géographie, juste situez-nous maintenant. Est-ce que elle a dépassé l'aire et la région de Beni? Quelles zones maintenant sont concernées?
Alors initialement c'est dans la zone de Mangina, à l'ouest de Beni, qui est toujours un foyer actif, c'est redevenu un foyer très actif. Les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont les deux touchées, mais c'est contenu dans cette zone-là. Alors ça, il y a une nouvelle zone de santé un peu plus vers le sud, qui se rapproche de Goma, mais pour le moment l'épidémie n'a pas touché d'autres provinces, ni d'autres pays, donc elle reste contenue au Nord Kivu et en Ituri.
L'Organisation Mondiale de la Santé parle donc de 1160 décès depuis le mois d'août, et vous l'avez dit, on compte plus de morts, voilà, ces 2 derniers mois que depuis le début de l'épidémie. Comment on explique cette explosion de cas?
Alors c'est très difficile, personne n'a de vérité absolue en la matière. Ce qu'on constate, c'est malgré le déploiement de l'aide, les cas continuent à augmenter. Le principal problème, c'est le manque de qualité dans ce qu'on arrive à produire pour les populations, et ce qui aboutit à un manque de confiance et une forme de défiance de la population. C'est lié aussi au fait que ce soit des situations d'insécurité très fortes, comme l'a rappelé le docteur Michel Yao de l'OMS. On est dans une zone de conflit avec beaucoup de groupes armés, avec des enjeux politiques qui ont eu lieu depuis le début de cette épidémie au mois d'août. Donc la situation politique, l'insécurité et la défiance des populations créent un cocktail qui rend très difficile de mettre en place les activités, la confiance et le fait que la communauté s'approprie la réponse pour pouvoir arrêter cette épidémie.
On va y venir, mais est-ce que le plus gros problème, ce n'est pas d'enregistrer justement toute cette chaîne de contamination? Vous recevez des gens malades que vous arrivez parfois à sauver, mais le problème c'est la contagion de la maladie. Est-ce qu'on arrive à savoir avec qui les malades ont pu être en contact et justement stopper la propagation?
Alors c'est le problème majeur aujourd'hui. Une organisation comme ALIMA, qui appuie le ministère de la Santé pour soigner les cas confirmés, il faut noter qu'on a fait d'immenses progrès de ces dernières années dans la prise en charge des cas confirmés d'Ebola. Avant, à peu près 2 personnes sur 3 décédaient quand elles venaient se faire hospitaliser. Aujourd'hui, moins de 40% des gens qui viennent, ça reste élevé, mais c'est quand même 2 fois moins quasiment que ça n'était le cas il y a encore 2 ans. Donc les gens qui viennent se faire soigner, quand ils ont la maladie, on a de fortes chances aujourd'hui de survivre et de les soigner correctement. Les soins sont gratuits, on soigne tout le monde, quelle que soit la langue maternelle, le sexe, l'âge. Donc tout le monde peut venir et a un bénéfice. Le problème, c'est d'arriver à passer ce message auprès de la communauté et que les gens voient un intérêt justement pour venir se faire enregistrer quand ils ont été en contact avec une personne d'Ebola, puisque c'est eux qui sont à risque demain de devenir malades.
Alors si on a un problème justement pour rentrer en contact et convaincre les gens qui ont été en contact avec des malades d'être suivis, d'être soignés, Est-ce que c'est pas là, justement, l'obstacle principal à la lutte contre l'épidémie?
Alors, avec l'insécurité, qui est aussi un obstacle quand même majeur, parce qu'il faut rappeler que des lignes rouges ont été largement franchies, hein, des centres de traitement ont été attaqués, ont été brûlés, du personnel national et international ont été tués, assassinés en plein jour, uniquement parce qu'ils venaient aider la population locale contre Ebola, en partie. Hein. Mmh. Donc c'est aussi quand même un enjeu majeur, l'insécurité. L'autre problème, c'est effectivement la confiance, et elle se gagne, selon nous, selon deux principes. Le premier, c'est que les gens voient la valeur ajoutée de l'aide qui est apportée. Mmh. Ils savent, la population le perçoit très bien, qu'un centre de traitement Ebola qui tourne bien, on arrive à baisser la mortalité, donc à sauver les gens localement. Et puis l'autre point, c'est la confiance et l'appropriation de la lutte. Il faut aujourd'hui que toute la population et les ONG, le ministère de la Santé, l'OMS, soient dans la même dynamique de dire c'est la population qui a la réponse finalement. Ce sont pas les gens de l'extérieur, ce sont pas les gens d'autres régions ou d'autres pays qui vont venir régler le problème d'Ebola. Il y a des technicités qu'on doit apporter et donner et des moyens à la population locale pour qu'elle puisse elle-même lutter et poser les barrières et arrêter cette épidémie.
Alors à propos de cette défiance, on va se tourner vers Elie Kwiravuza. Vous êtes donc à Butembo. Est-ce que cette méfiance envers la maladie, vous l'avez perçue dès le début de l'épidémie, dès la déclaration, c'était au mois d'août?
Oui, effectivement, parce que vous savez que la maladie à virus Ebola est apparue dans cette zone géographiquement où on observe tout d'abord cette complexité de la dynamique de la population. C'est autour d'un cercle vicieux dont mon co-débatteur a pu parler des différents éléments des contraintes. Et il y a aussi un autre élément très important qu'il fallait peut-être y revenir sur la dynamique de la population dont le mouvement est difficile à contrôler, mais aussi sans passer outre les frustrations antérieures que la population a pu accumuler au fur et à mesure que les problèmes ont perduré. Parce qu'il est important de retenir que Ebola est venu dans cette contrainte et pourtant il y avait l'insécurité qui était déjà là. Depuis 2014, il y a eu l'économie qui était en berne. Les paysans n'allaient plus au champ pour cultiver par la persistance de l'activisme accru des terroristes des ADF Nalu, et voire même la multiplicité des groupes armés dans cette zone. Et il a parlé aussi de ce facteur pour la politique. Et nous savons tous que Ebola est venu apparaître dans cette contrainte lorsque il y a eu beaucoup de la campagne électorale. Il y a eu beaucoup d'intoxications.
Elie Kwiravuza, on va s'arrêter tout à l'heure évidemment sur le contexte électoral, il est primordial, mais expliquez-nous d'où vient cette méfiance envers les équipes médicales alors qu'on peut avoir le sentiment qu'elles viennent justement en aide aux communautés. Comment les communautés les percevaient? Est-ce que c'est parce qu'elles sont étrangères ou elles ne sont pas nées dans la région? Qu'est-ce qui était le principal problème à leur arrivée?
Le principal problème à l'arrivée, je l'ai réparti en trois catégories. La première catégorie, c'est par rapport au volet de la sensibilisation. Et pourquoi est-ce que la population ne s'est pas approprié cet engagement? C'est parce que tout simplement, dès le départ, on observait une stratégie de l'exhibitionnisme, quoi. On est venu avec beaucoup de moyens, avec beaucoup d'impressions, et subitement la population, dans un contexte de frustration, n'avait pas exactement compris dès le départ, et aussi il n'y avait pas une intégration des structures locales, de la communauté locale dans la sensibilisation. Et là on peut retenir, par exemple, il y a très longtemps que dans cet endroit, la sociologie médicale en ville de Butembo, comme à Beni et partout là-bas, c'est le malade qui s'amène vers le docteur, vers le médecin. Et lorsque c'était maintenant dans le cadre de remonter des alertes, d'informer et de venir chercher le malade à la maison, la population n'avait pas compris au juste à quoi est-ce que cela pouvait représenter.
Kwiravuza, je voudrais juste me tourner vers Augustin Augier. Qu'est-ce que cela signifie en fait qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce qui vous rappelle justement les techniques utilisées, la stratégie utilisée par les ONG quand elles sont arrivées dans cette région où il y avait clairement une urgence? Elie Kwiravuza disait on venait chercher les malades. Quelle était la stratégie et est-ce que cette stratégie a évolué avec le temps?
Alors, Évidemment, on constate, et c'est plutôt regarder vers devant que sur le passé, on constate qu'aujourd'hui, il y a encore plus de 100 cas par semaine et qu'il y en a de plus en plus. Donc, il faut changer de stratégie, il faut se poser des questions pour faire davantage. Je crois qu'on a acquis le fait que la population sait qu'elle a besoin de l'aide pour augmenter ses chances de survie et arrêter l'épidémie. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a conscience de ça et c'est essentiel. Maintenant, ce qu'il faut, c'est passer à l'étape où c'est elle qui a les moyens de faire la riposte. Au début, c'était les techniciens, les agences des Nations Unies, les ONG, le ministère de la Santé, qui concentraient ces moyens. Aujourd'hui, on est prêt, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que se donner ces moyens à la population. C'est par exemple ce que fait l'ONG à Lima. Nous, aujourd'hui, sur le terrain, les cas suspects, on donne les moyens aux agents de santé dans les centres de santé, donc des moyens techniques, de la formation, du matériel spécialisé, pour prendre en charge eux-mêmes les cas suspects. Ça ne demande pas le plus haut niveau de technicité.
Donc ce sont en fait des agents locaux.
Ce sont les agents locaux et du coup les gens, si jamais ils sont suspectés d'avoir Ebola, ne doivent pas partir dans un centre très loin de chez eux où ils ne connaissent pas les gens, mais vont dans leur centre de santé où ils ont leurs habitudes, qui est près de la maison, la famille peut venir les voir pendant les 2 ou 3 jours où ils sont cas suspects. Et donc, c'est intégré totalement dans la vie quotidienne avec les proches, la communauté. Ça change tout le rapport à la maladie et donc à la riposte contre cette épidémie.
Elie Kouiravouza, est-ce que le problème des enterrements est central aussi pour vous? Parce qu'évidemment, dans la maladie, le virus Ebola, il y a énormément de risques autour des dépouilles qui sont très contagieuses. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu un choc de culture? Est-ce que cela a perturbé les us et coutumes des communautés?
Oui, dès le départ, vous savez qu'on accorde beaucoup de l'importance à des personnes mortes et quelqu'un qui est mort, il mérite beaucoup de vénérance, beaucoup de considération et d'honneur à l'égard de sa famille. Et subitement, la riposte est venue interrompre cette chaîne de culture qui était observée dans le milieu. Et la plupart des familles, ils ont un peu cette nostalgie, cet amour, cet attachement à la personne qui vient de partir. Et que, vu la virulence de cette maladie à virus Ebola, il fallait bien sûr interrompre certaines pratiques, s'approcher auprès de la personne morte, essayer un peu de confier le cadavre auprès des équipes spécialistes. Mais chose étonnante, quelque chose qui a encore réveillé et renforcé la méfiance de la population, on a pu utiliser les femmes dans les enterrements dignes et sécurisés. Et pourtant, culturellement parlant, dans la culture nande, les femmes ne doivent pas enterrer les morts. Tout ça, ça a suscité beaucoup de frustration et de choc culturel vis-à-vis de cette pratique de l'enterrement digne et sécurisé.
Augustin, pour vous faire réagir, comment on fait alors pour s'adapter alors que clairement il y a un énorme problème autour des dépouilles. On sait que c'est un moment très sensible.
Alors, je pense que d'une manière générale, quand on combat une épidémie d'Ebola, il faut reconnaître un premier élément, c'est que ça fait peur, Ebola, et c'est normal. On est face à une maladie qui touche n'importe qui, quel que soit l'âge et le sexe, qui va décimer et tuer des gens, près de 7 personnes sur 10 meurent d'Ebola sans traitement, 8 sur 10 parfois, quel que soit l'âge, même s'ils sont bien portants, en une dizaine de jours. C'est effrayant, il n'y a pas d'autre maladie comme ça. Donc il faut partir du principe que cette peur, elle est légitime. Et il faut entendre la peur chez les populations et il faut avoir un discours de confiance pour arriver à dépasser ça.
Et vous y êtes arrivé, vous avez le sentiment que finalement autour des enterrements, c'est un peu moins problématique?
Nous, on gère pas directement les enterrements. Il y a des moments où il y a eu plus de 5000 enterrements dignes et sécurisés, comme ça s'appelle, depuis le début de l'épidémie. Certains ont été très bien faits. Il faut souligner le courage des équipes locales qui mettent en place ça. Et c'est très important pour protéger le reste de la population. J'imagine aussi qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, parce que c'est énorme, 5000 enterrements dignes et sécurisés. Il y a plus de 1000 alertes par jour aujourd'hui auxquelles la riposte est obligé de répondre. Donc il faut aussi comprendre qu'on est à un niveau de l'épidémie où la quantité d'informations et de patients et finalement de drames individuels, parce que chaque patient confirmé, c'est un drame individuel. C'est une famille qui est touchée, avec un ou plusieurs décès dans la famille. Ça crée un flot de travail qui est extrêmement difficile aujourd'hui à contrôler, parce que il y a plus de 10, 15, 20 cas par jour. Il y a eu plus de 120 cas la semaine passée. Donc c'est très difficile d'arriver à maintenir le niveau de qualité qui est nécessaire pour que la population continue à avoir confiance dans la riposte.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, une défiance qui va très loin, donc jusqu'à la violence. Plusieurs dizaines d'attaques enregistrées contre des équipes médicales. Un médecin camerounais de l'OMS tué en avril. Un agent qui intervenait sur des enterrements sécurisés ce mois-ci, au mois de mai. Et les menaces sont quotidiennes, comme le décrit Katembo Mapé Maneno, coordonnateur adjoint du syndicat des infirmiers de Boutembo.
Quand nous nous promenons dans les quartiers, on nous dit que c'est quelque chose qui est monté de toutes pièces, c'est la politique. La maladie n'existe pas, c'est une politique montée par les autorités. Alors, bon, la maladie, elles ne comprennent pas que la maladie existe.
L'épidémie d'Ebola, trop souvent perçue, comme le disait cet infirmier, comme une manipulation politique. Eli Kouyaraouza, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, cette épidémie s'est déroulée dans un contexte électoral très sensible, celui des élections générales tant attendues, et des élections qui ont été annulées seulement 4 jours avant par la commission électorale à Beni et Boutembo, en raison officiellement donc de cette épidémie d'Ebola. Quel a été pour vous l'impact de cette décision sur la perception du virus?
L'impact de cette décision, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, et ça a renforcé un peu cette méfiance, ça a renforcé un peu ce fossé-là de l'approche et des confiances pour amener la population à croire de l'existence réelle de cette maladie. Parce que cette récupération politique a rendu encore très dur les personnes qui devraient adhérer, qui étaient déjà d'accord à accompagner les leaders influents du milieu, voire même le BAPEP qui s'est privé de son droit de vote, surtout par rapport à l'enjeu des élections présidentielles. Bien que le 31 mars 2019, on a rebondi, on a organisé les élections législatives et provinciales, mais ce n'était pas accueilli avec chaleur comme ça serait en décembre 2018. Et cet aspect politique, ça a été récupéré par certains politiciens, bien sûr du milieu, qui se sont vus être élus avec plusieurs voix, parce que tout simplement, ils ont récupéré la situation pour faire brandir leur agenda électoral en vue de s'attirer cette sympathie. Et du côté de la population, ça a eu tellement un impact. Aujourd'hui, on observe cette recrudescence de cas confirmés. On observe aujourd'hui les attaques à répétition de centres de traitement. Parce que dans ce milieu, effectivement, il y a ces groupes armés qui sont hostiles au pouvoir, oui, qui étaient hostiles et qui continuent à être hostiles au pouvoir en place et qui pensent que jusqu'à présent, si Ebola existe, c'est parce qu'il y a eu une manipulation politique pour effacer de la carte du pays.
Une question à Augustin Augier, oui, à propos de ça, justement, est-ce que c'est pas là aussi le nœud du problème, peut-être une politisation de l'épidémie quand la réponse devrait être simplement médicale?
Nous, on est une organisation, une ONG neutre, indépendante, hein. On est là pour les populations. On pense, oui, que aujourd'hui, on a besoin de dépolitiser complètement cette question. Le fond de la question, c'est qu'il y a 1200 personnes qui sont mortes, qui ne devraient pas être mortes. Il y a 1200 familles en deuil, et potentiellement beaucoup plus. Aujourd'hui, personne n'a intérêt, les populations en général, évidemment les gens qui sont touchés par la maladie, qu'on peut soigner, parce que c'est ça, on peut les soigner gratuitement, on sait faire, on a fait des progrès, on y arrive. L'ensemble de la population, les commerçants, les politiques, au niveau local, régional ou national, personne n'a intérêt à ce que cette maladie se diffuse. Donc je pense qu'il y a l'Union nationale pour la lutte, une lutte apolitique, basée sur le principe humanitaire et médicaux, qui est dans le plus grand intérêt des populations et de tous.
Une épidémie qui n'a pas traversé la frontière, pour conclure, est-ce que c'est votre crainte? Parce que c'est comme une zone de commerce, d'échange très importante, notamment avec l'Ouganda. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez?
Ce qu'on craint, c'est un élargissement de l'épidémie, que ce soit au Congo, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, en Ouganda ou au Rwanda, sur les frontières, c'est évident. Aujourd'hui, on a un niveau de risque qui est considéré comme élevé, mais c'est pas le niveau le plus élevé. C'est une possibilité. On a les moyens de lutter contre cette épidémie. C'est une maladie qu'on connaît mieux, pour lesquelles il y a un vaccin, pour lesquelles il y a des médicaments prometteurs. On soigne les gens gratuitement. On va y arriver. Tout le monde va se remettre dans ce sens-là, et on a confiance pour l'avenir, et on espère, on souhaite vraiment que cette épidémie stoppe et ne s'étende pas davantage dans d'autres pays.
Merci beaucoup d'être avec nous, Augustin Augier, directeur donc général de l'ONG Alima, et merci à Eli Kouyaraouza qui était en ligne avec nous de Boutembo, vice-président de la société civile de cette ville du nord-est de la RDC. Et merci à Louise Kaledek, Vanadis Feuille, Simon Carteret, Steven Hetzli qui m'ont aidé à préparer cette émission. Tout de suite un nouveau journal sur RFI.